Seriez-vous prêt à tout quitter pour prendre la route en famille vers un ailleurs que l'on vous promet meilleur?
La neige tant redoutée arriva. Autour des feux de camp, sous les arbres, de gros flocons plumeux tourbillonnaient. Les Indiens comprirent que nous étions condamnés.
Cette adolescente de 13 ans a vécu une aventure tragique qui a marqué l'histoire des États-Unis d'Amérique. Elle faisait partie d'un groupe de pionniers partis à la conquête de l'Ouest. Dans les années 1840, des dizaines de milliers de voyageurs originaires d'Europe participent à l'une des plus grandes migrations de l'histoire. Les chariots transportent des familles entières qui espèrent faire fortune en prenant part à la colonisation des territoires de la côte pacifique. Mais pour l'un de ces convois, le rêve américain vire au cauchemar. Au terme d'un interminable périple semé d'embûches, hommes, femmes et enfants se retrouvent pris au piège par l'hiver dans les montagnes de la Sierra Nevada. Coupés du monde, pendant des mois, ils vont lutter contre la faim et le froid et finir par commettre l'impensable.
La misère endurée durant ces 4 mois, dans nos petites cabanes sous la neige, remplirait des pages entières et ferait mal aux cœurs les plus endurcis.
C'est cette histoire vraie de survie que je vais vous raconter. Je suis Daniel Fievet et je vous emmène au Far West sur les traces de ces familles de pionniers dont une partie seulement est parvenue à échapper à la mort in extremis. Avril 1846. La ville de Springfield, dans l'Illinois, est en effervescence. Un imposant convoi de chariots transportant 3 familles aisées de la ville est sur le départ. Il s'apprête à entreprendre un long voyage vers les contrées lointaines et encore très mal connues du Grand Ouest. À l'époque, la Californie appartient au Mexique et l'Oregon n'est pas encore un État. Quelques colons d'origine européenne ont commencé à s'y installer. D'autres les rejoignent par dizaines de milliers, bien décidés à s'approprier ces territoires.
L'Oregon. Ouais. Vous passez par où?
Par le pôle sud. Puis Salt Lake City, puis cap vers l'ouest.
Pour ces pionniers de la conquête de l'ouest, ces terres lointaines sont perçues comme des Édens, des Eldorado, la promesse d'une vie plus heureuse et plus riche. Cet appel du Grand Ouest séduit même ceux qui ont déjà fait fortune. C'est le cas de James Reed, un homme d'affaires avisé, très sûr de lui. Son air hautain et parfois méprisant en agace plus d'un. Il part avec son épouse Margaret, sa belle-mère Sarah Case et ses 4 plus jeunes enfants. Tommy, 4 ans, James Jr., 6 ans, Patty, 8 ans et Virginia, 12 ans. Ce grand départ laissera un souvenir impérissable à l'adolescente.
Au revoir, ma chérie.
Bye.
Je n'oublierai jamais le matin où nous avons fait nos adieux. Nous étions entourés de nos proches et là se tenaient tous mes petits camarades d'école qui étaient venus m'embrasser pour me dire au revoir. Mon père, les larmes aux yeux, essayait de sourire, tandis qu'un ami après l'autre lui prenait la main en guise d'adieu final. Maman était accablée de chagrin. Enfin, nous étions tous dans les chariots. Les conducteurs claquèrent leurs fouets, les bœufs avancèrent lentement, et le long voyage commença.
Restez à 5 mètres les uns des autres. Pour traverser un cours d'eau, attendez que la personne devant vous ait fini de traverser. Laissez pas vos enfants monter à l'avant des chariots. Ils finiraient par tomber.
La caravane s'ébranle dans la poussière. Elle est composée d'une dizaine de chariots flambant neufs tirés par des bœufs. Dans leur sillage avance un important troupeau de bœufs de rechange, des vaches laitières, des chevaux et des chiens de garde. L'impressionnant cortège transporte également les familles des frères George et Jacob Donner. Ces 2 riches fermiers avaient déjà migré 5 fois avant de s'installer à Springfield. Ils avaient gagné suffisamment d'argent pour ne plus avoir à déménager. Mais eux aussi ont été gagnés par la fièvre de l'Ouest. George, un homme jovial de 62 ans à la carrure imposante, a convaincu son épouse Tamsen, une femme de 44 ans, dynamique et érudite, d'entreprendre ce grand voyage avec leurs 5 enfants, âgés de 3 à 13 ans.
Papa !
Jacob et Elisabeth Donner, quant à eux, prennent la route avec leurs 4 enfants, âgés de 7 à 14 ans.
Je suis avec ma famille, mes 6 en tout.
À ces 3 familles s'ajoutent 2 domestiques et 7 cochers. Les Donner et les Reed ont vendu tous leurs biens pour préparer ce grand voyage.
Nous avions 2 chariots chargés de provisions. Nous avions acheté tout ce qu'il était possible d'imaginer. Mon père partit avec des provisions suffisantes pour nous permettre de passer le premier hiver en Californie.
Les émigrants vont devoir parcourir plus de 4000 km. Ils savent qu'ils auront à traverser d'immenses plaines, 3 grandes chaînes de montagnes, plusieurs déserts arides, mais ils ne connaissent pas le détail de leur parcours. Ils espèrent boucler leur périple en 5 mois. Il leur faudra impérativement passer la dernière chaîne de montagne, la Sierra Nevada, avant que les neiges de l'hiver ne bloquent le passage.
Et ils mourront de soif si on passe par l'ouest.
Pour mettre toutes les chances de leur côté, ils ont emporté avec eux le guide des émigrants de l'Oregon et de la Californie, écrit par un certain Lansford Hastings, un avocat qui rêve de voir les colons européens arracher la Californie au Mexique. Sûrement, car reste-t-il l'espoir de participer à sa gouvernance. Dans son guide, Hastings décrit un raccourci inconnu jusqu'alors et qui, selon lui, permettrait de gagner un temps précieux par rapport au chemin emprunté par les caravanes des pionniers les années précédentes. Même avec ce raccourci, le voyage s'annonce long et éprouvant. Les voyageurs n'ont pas lésiné sur le confort. Sur la route, l'opulence du convoi des Donner et des Reed ne passe pas inaperçue parmi les autres caravanes.
Il est certain qu'aucune famille n'avait jamais traversé les plaines avec plus de provisions ou un meilleur équipement pour le voyage.
Le chariot dans lequel voyage la famille Reed est le plus luxueux de tous. Tiré par 8 bœufs, c'est un chariot à 2 étages. Le palace roulant des pionniers, comme s'amuse à le surnommer Virginia Reed.
L'entrée était sur le côté, comme celle d'une diligence à l'ancienne. Et on entrait, pour ainsi dire, dans une petite pièce. À droite et à gauche se trouvaient des banquettes à ressort avec de hauts dossiers confortables. Dans cette petite pièce se trouvait un minuscule poêle en tôle dont le tuyau traversait le toit du chariot.
Sous les banquettes ont été aménagés des coffres contenant linge, vêtements, médicaments, ustensiles et équipements en tout genre. Un imposant miroir suspendu fait face à l'entrée. Au deuxième niveau se trouvent les lits. La grand-mère, Sarah Case, âgée de 70 ans, voyage sur un matelas de plumes bien calé entre des oreillers qu'elle ne quitte jamais. Elle est tuberculeuse et peine à se déplacer. Malgré son état, elle a tenu à faire ce voyage pour ne pas être séparée de sa fille unique, Margaret. La première partie du voyage jusqu'à Independence, dans le Missouri, se déroule sans incident. Le chemin de plus de 400 km est connu. Seule difficulté, la pluie incessante. Les toiles cirées qui recouvrent les chariots ne suffisent pas à empêcher l'eau de s'infiltrer. Les robes de flanelle s'alourdissent et collent à la peau. Mais pas de quoi doucher la bonne humeur de Tamsen, l'épouse de George Donner. Cette femme d'1m52 pour 45 kilos déborde d'énergie et d'enthousiasme. Arrivée à Independence, après un mois de voyage, elle écrit à sa sœur.
Independence, le 11 mai 1846. Ma très chère sœur unique, je ne peux pas vous donner une idée de l'agitation qui règne ici à cette époque. On suppose qu'il y a 7000 chariots cette saison. Nous allons en Californie jusqu'à la baie de San Francisco. Un voyage de 4 mois. Je suis prête à y aller et je suis sûre que ce sera un avantage pour nos enfants et pour nous. Adieu, ma sœur. Vous aurez de mes nouvelles dès que j'en aurai l'occasion.
Dans la ville d'Independence, les pluies diluviennes du printemps ont transformé les rues en bourbier. Les roues des chariots s'enfoncent, parfois jusqu'au moyeu. Les fouets des cochers claquent. Les injures fusent. Les émigrants courent d'un magasin à l'autre pour compléter leurs provisions. Près de 10 000 bœufs s'arrachent les derniers brins d'herbe dans les prairies boueuses qui entourent la ville. Le convoi des donneurs et des rides ne s'attarde pas plus que nécessaire. Ils s'élancent sur le long chemin qui doit les mener jusqu'en Californie. Alors qu'ils traversent les vastes plaines de l'actuel Kansas, ils sont arrêtés par une rivière. Pour la franchir, il faut utiliser un bac tenu par des Indiens, les Caux. La jeune Virginia Reed attendait avec excitation et inquiétude cette première rencontre. Sa grand-mère lui a raconté tant d'histoires terrifiantes au sujet des Indiens. Avec appréhension, l'adolescente regarde les chariots passer d'une rive à l'autre sur le bac guidé par les Caux.
Je les observais attentivement, osant à peine reprendre mon souffle. J'étais persuadée qu'ils couleraient le bateau au milieu du cours d'eau, et je fus très reconnaissante de constater qu'ils ne ressemblaient pas aux Indiens de ma grand-mère.
On pourrait faire traverser le troupeau en premier.
Moi, ce que j'en dis, c'est que si les vaches passent en premier, elles vont faire de la boue.
Les bœufs, les vaches, les chevaux et les chiens traversent à la nage et la caravane reprend son chemin. Chaque jour, Virginia, chevauchant son poney Billy, part en éclaireuse avec son père pour repérer un site sur lequel établir le campement du soir. Fin mai, le convoi doit à nouveau s'arrêter sur la rive d'un imposant cours d'eau large d'une centaine de mètres. C'est la rivière Big Blue. Elle est en crue.
Elle était si haute que nous ne pouvions pas la traverser. Il nous fallait fabriquer des radeaux pour faire passer les chariots. Dès que nous cessâmes de voyager, grand-mère commença à s'affaiblir.
Pendant que les hommes s'affairent à couper des arbres pour construire les radeaux, dans le palace roulant de la famille Reed, la grand-mère Sarah Case est au plus mal. Le 29 mai, au petit matin, la vieille femme expire. Les épreuves de ce premier mois et demi de voyage lui auront été fatales.
Un cercueil fut taillé dans un peuplier et John Denton, un jeune homme de Springfield, trouva une grande pierre grise sur laquelle il grava en lettres profondes le nom de Sarah Keys, née en Virginie, indiquant son âge et sa date de naissance. Elle fut enterrée à l'ombre d'un chêne.
Les quatre enfants de la famille Reed sont très affectés par la mort de leur grand-mère. Elle leur racontait des histoires et leur fabriquait des poupées.
Elle nous manque beaucoup. Chaque fois que nous entrons dans le chariot, nous regardons son lit dans l'espoir de la voir.
Au terme de 4 jours d'efforts, tous les chariots ont été transportés de l'autre côté de la rivière Big Blue. La caravane des donneurs et des rides, à laquelle se sont associées d'autres familles et voyageurs solitaires, traverse une immense vallée.
La route était bonne et le paysage magnifique, s'étendant devant nous à perte de vue une vallée aussi verte qu'émeraude, parsemée ici et là de fleurs de toutes les couleurs imaginables. Et à travers cette vallée coulait un large cours d'eau rapide et peu profond. Notre groupe comptait alors une 40aine de chariots.
Dans ce paysage grandiose, ça et là émergent des petites tombes fraîchement creusées d'enfants morts en chemin. Au fil des jours, l'émotion suscitée par ces petites sépultures s'émousse. Les regards préfèrent ne pas s'attarder. Tamsen Donner, dont la famille a jusqu'ici été épargnée par le malheur, ne se départit pas de son enthousiasme.
Notre voyage a été agréable jusqu'ici. Les routes bonnes, la nourriture abondante. Le bois est devenu très rare, mais les bouses de bison font parfaitement l'affaire. Elles s'allument facilement et retiennent étonnamment la chaleur. Ce matin, nous avons fait griller des steaks de bison sur ce combustible.
Virginia Reed, du haut de ses 12 ans, vit ce voyage comme une grande aventure.
J'ai assisté à de nombreuses chasses aux bisons, et plus d'une fois j'y ai participé aux côtés de mon père. La nuit, au moment d'établir notre campement, les chariots étaient placés de manière à former un cercle dans lequel notre bétail était conduit après avoir brouté, pour empêcher les Indiens de le voler, les feux de camp et les tentes étant à l'extérieur.
Les relations entre les Indiens et les pionniers sont ambivalentes. Ces peuples autochtones sont perçus tantôt comme une menace, tantôt comme des aides précieuses. On craint qu'ils ne volent le bétail ou attaquent un convoi, mais ils sont aussi très utiles comme émissaires pour transmettre les nouvelles d'un bout à l'autre du parcours. Malgré les services qu'ils peuvent rendre, les colons d'origine européenne les considèrent comme des sauvages, moins civilisés qu'eux. Virginia Reed observe le comportement des nombreux Sioux qu'ils rencontrent en chemin.
Nos chariots étaient si éloignés les uns des autres qu'ils auraient pu massacrer tout notre groupe sans trop de pertes. Certains de nos compagnons s'alarmèrent et les fusils furent nettoyés et chargés pour montrer aux guerriers que nous étions prêts à combattre. Mais les Sioux ne montrèrent jamais la moindre envie de nous déranger. Leur curiosité était cependant agaçante et notre chariot, avec son tuyau de poêle et son miroir bien visible, attira leur attention. Ils se bousculaient continuellement pour essayer de se voir dans le miroir.
Virginia, sur son poney Billy, retient également l'attention des Indiens. Un jour, un groupe de Sioux vient à la rencontre de son père et entasse devant lui des pots tannés auxquels ils ajoutent plusieurs chevaux. Par geste, les Sioux lui font comprendre qu'ils désirent acheter le poney de Virginia ainsi que sa cavalière. James Reed décline fermement l'offre et ordonne à sa fille de poursuivre le voyage dans le chariot, au grand dam de l'adolescente. Après 2 mois et demi de voyage, le 27 juin, le convoi atteint Fort Laramie, au pied des montagnes rocheuses. Ils ont seulement une semaine de retard sur ce qu'ils avaient prévu. À Fort Laramie, Virginia fête ses 13 ans et son père croise un vieil ami, James Kleeman. Il vient de Californie et effectue le trajet dans l'autre sens. Il a emprunté à cheval le fameux raccourci préconisé par Lansford Hastings. Kleeman met en garde son ami.
Je lui ai parlé du grand désert et de la rudesse des Sierras. Je lui ai dit de prendre la voie normale des chariots.
Reed reste tenté par ce raccourci qui permettrait à son groupe de rattraper le retard accumulé sur la première partie du voyage. Mais si son ami disait vrai? À la mi-juillet 1846, les chariots des familles Donner et Reed, engagés dans le flot des caravanes du grand exode de la conquête de l'Ouest, ont parcouru 1600 km depuis la ville d'Independence. Il leur en reste autant à effectuer pour atteindre Fort Sutter dans la vallée de Sacramento, en Californie. Alors que les voyageurs se sont installés pour camper, un cavalier solitaire vient à leur rencontre. Il est porteur d'une lettre de Lansford Hastings, l'auteur du fameux guide des émigrants de l'Oregon et de la Californie. Dans sa lettre, Hastings demande à tous les voyageurs en chemin vers la Californie de poursuivre jusqu'à Fort Bridger, où il les attendra pour les guider à travers les montagnes et les déserts de l'Utah et du Nevada sur le fameux raccourci qu'il préconise dans son livre. Le 20 juillet, les chariots arrivent à la croisée des chemins. À droite, la route classique empruntée par les colons depuis plusieurs années. À gauche, le chemin vers Fort Bridger pour prendre le raccourci de Hastings. Seuls 20 chariots s'engagent sur le nouveau chemin. Parmi eux, ceux des Donner et des Reed, accompagnés de 6 autres familles dont ils ont fait la connaissance en route. Ce nouveau convoi décide d'élire un chef.
Je suis pas un putain de fermier.
James Reed, dont la richesse ostentatoire et l'attitude hautaine déplaisent à beaucoup, est écarté au profit de George Donner. Le vieux fermier est populaire. Dans le groupe, on le surnomme Oncle George. Lorsque le convoi arrive une semaine plus tard aux 2 cabanes en rondin de Fort Bridger, où Lansford Hastings était censé les attendre, l'homme n'y est déjà plus. Il a pris la route quelques jours plus tôt pour mener une caravane d'une 60aine de chariots. Mais il a laissé aux propriétaires des lieux des instructions à l'intention des émigrants qui souhaiteraient les rejoindre. Les voyageurs restent confiants. les chariots s'élancent sur les chemins escarpés des montagnes rocheuses. Au bout d'une semaine, ils trouvent sur leur route un message de Hastings indiquant que la piste devant eux est quasiment impraticable. Il leur conseille d'attendre pour qu'ils viennent leur montrer une autre voie. James Reed part à cheval à sa rencontre. Au bout de 5 jours, il finit par le retrouver. Mais Hastings refuse de rebrousser chemin pour lui venir en aide. Il se contente de lui fournir quelques indications sur la route à suivre. Reed rejoint son convoi et entreprend de le guider. Les chariots progressent avec beaucoup de difficultés. Ils doivent se frayer un chemin à travers des canyons encombrés de blocs rocheux et de végétation.
Il n'y avait absolument aucune route, même pas un sentier. Le canyon serpentait entre les collines. Il fallait couper les épaisses broussailles et les entasser au sol pour combler les trous.
Il leur faut 6 jours pour parcourir une douzaine de kilomètres. Le 22 août, le convoi quitte les montagnes avec un mois de retard sur ce qui était prévu. L'été est déjà bien avancé et il leur reste encore près de 1000 kilomètres à parcourir. Et déjà, une nouvelle épreuve les attend. Les chariots entament la traversée d'un immense désert de sel. Devant eux, à perte de vue, une vaste étendue d'une blancheur étincelante.
C'était un désert alcalin, morne et désolé. On ne voyait rien. On aurait dit que la mort s'était abattue sur cette contrée.
Après quelques kilomètres, une fine couche d'eau affleure à la surface. La croûte de sel se transforme en une sorte de mélasse dans laquelle roues et sabots s'engluent. Cette eau saturée en sel est bien sûr imbuvable. Au bout de 3 jours, les émigrants sont à court d'eau potable. La traversée est plus longue que prévu. Le soir venu, une partie des bœufs de la famille Reed s'enfuit à travers le désert, sans doute poussée par la soif. Avec la nuit, le froid s'installe. Virginia se pelotonne avec ses frères et sœurs sous un châle sur lequel on allonge les chiens pour leur tenir chaud.
Un vent glacial balayait le désert. Sans la chaleur de ses fidèles compagnons, nous serions sans doute morts de froid.
Il faut 5 jours au convoi pour traverser ce désert infernal, large de 130 km, 2 fois plus que ce qu'avait indiqué Hastings. Une 40aine de bœufs ont été perdus. Il faut abandonner des chariots, dont le fameux palace roulant des pionniers qui faisait la fierté de la famille Reed.
On peut revenir chercher ce qu'on laisse ? Comment vous comptez faire ça ?
Plusieurs familles enterrent une partie de leurs biens précieux dans l'espoir de revenir les chercher plus tard.
On va arriver sans rien ! Comment on va vivre si on n'a plus rien ?
Les émigrants sont exsangues, mais il n'est plus possible de faire demi-tour. Il faut continuer, coûte que coûte. Le 26 septembre, ils atteignent la rivière Humboldt et rejoignent la piste principale. Le prétendu raccourci de Hastings s'est avéré plus dangereux et plus long. Les voyageurs en veulent à cet homme qui les a dupés et abandonnés à leur sort. Au sein du groupe, la fatigue et l'angoisse exacerbent les tensions. Beaucoup se demandent s'ils parviendront à traverser les montagnes de la Sierra Nevada avant l'hiver.
Il faut qu'on pense déjà à l'hiver parce que c'est pour bientôt. Si on part à l'ouest, on devra traverser le Brazos. Il n'y a aucune bonne option. Je sais juste que l'hiver, c'est la pire des options.
2 hommes du convoi, Charles Stanton et William McCutcheon, partent à cheval chercher de l'aide. Sans les chariots, ils arriveront plus vite à Fort Sutter en Californie et pourront envoyer des secours. Le 5 octobre, un drame survient. Alors que les chariots sont engagés dans une pente raide et sablonneuse, l'attelage de la famille Reed s'en mêle avec celui d'une autre famille. Une dispute éclate entre les cochers, l'un reprochant à l'autre de frapper violemment ses bœufs avec la crosse de son fouet. James Reed intervient pour donner raison à son cocher. Les derniers bœufs sont trop précieux pour qu'on les maltraite. Le ton monte. John Snyder, le cocher de l'autre famille, frappe James Reed à la tête sous les yeux de sa fille de 13 ans, Virginia.
Mon père resta un instant abasourdi et aveuglé par le sang qui coulait d'une entaille à la tête. Un autre coup s'abattit lorsque ma mère courut entre les hommes. Mon père vit le fouet levé, mais il n'eut que le temps de crier « John ! John !» quand le coup s'abattit sur ma mère. Aussitôt, mon père sortit son couteau de chasse.
James Reed se rue sur John Snyder et lui enfonce la lame de son couteau dans la poitrine. L'homme s'effondre et meurt quelques instants plus tard. Les voyageurs assistent médusés à la scène. Que faire à présent ? La petite communauté se rassemble pour statuer sur le sort de James Reed. Certains demandent qu'il soit pendu. Son épouse, Margaret, implore la clémence du groupe. Finalement, on décide de le bannir. Après avoir obtenu la promesse que l'on prendrait soin de sa femme et de ses quatre enfants, James Reed se résout à accepter la sentence du groupe.
Mon père fut abandonné en territoire inconnu, sans provisions ni armes. Même son cheval lui fut d'abord refusé. Lorsque nous apprîmes cette décision, je le suivis dans l'obscurité, emmenant un cheval avec moi. Je lui portais son fusil, ses pistolets, ses munitions et un peu de nourriture. Je le suppliais de me laisser rester avec lui, mais il ne voulut rien entendre, disant que c'était impossible. Finalement, détachant mes bras de son cou, il me confia la responsabilité du cheval qui repartit avec moi au camp. Et papa resta seul.
Le convoi poursuit sa route. Ses membres sont affaiblis physiquement et moralement, plus vulnérables que jamais. Le 12 octobre, la caravane est attaquée par des Indiens Paiutes. Une pluie de flèches empoisonnées s'abat sur le bétail. Une vingtaine de bœufs sont tués, réduisant un peu plus encore le troupeau. La situation est de plus en plus critique. Mais quelques jours plus tard, les émigrants voient venir vers eux trois cavaliers. C'est Charles Stanton qui était parti chercher du secours à Fort Sutter en Californie. Il est de retour accompagné de deux guides indiens, Lewis et Salvador, et de sept mules chargées de provisions.
Stanton nous apporta mieux que de la nourriture. La nouvelle que mon père était vivant. Il l'avait rencontré non loin du Fort Sutter. Il était resté trois jours sans manger. Stanton lui avait donné un cheval et quelques provisions et était parti.
Le groupe reprend espoir. Malgré toutes les épreuves endurées, ils vont y arriver. La caravane prend la direction des hauts sommets de la Sierra Nevada. Le 31 octobre, l'essieu avant du chariot de la famille de George et Thompson Donner se brise. Ils doivent s'arrêter pour réparer. Les autres continuent à avancer sans attendre. En coupant du bois pour changer la pièce cassée de son chariot, George s'entaille profondément la main, ce qui le retarde encore plus. Le soir venu, le reste du groupe installe son campement pour dormir. Ils ne sont plus très loin du col qui leur permettra de passer de l'autre côté de la chaîne de montagnes. Mais durant la nuit, la neige tant redoutée fait son apparition. D'imposants flocons tombent sans discontinuer. À l'aube, un épais manteau blanc recouvre la montagne. Le chariot de George Donner n'a toujours pas réapparu, mais plus question d'attendre. Il faut franchir le col de toute urgence. Les chariots tentent désespérément de progresser sur une pente raide dans 1,5 mètre de poudreuse. Les roues glissent ou se bloquent. Les bœufs souffrent.
Voyant que les chariots ne pouvaient pas être tirés dans la neige, on chargea leurs marchandises et leurs provisions sur des bœufs et on reprit la route. Les hommes et les femmes marchaient dans la neige jusqu'à la taille, portant leurs enfants dans les bras et essayant de conduire leur bétail. Les Indiens dirent qu'ils ne trouvaient pas la route. Alors on fit halte.
La nuit tombe et la neige redouble. Au petit matin, après plusieurs tentatives désespérées, il faut se rendre à l'évidence. Il n'est plus possible d'accéder au col qui se trouve à seulement quelques kilomètres au-dessus. L'hiver s'est installé un mois plus tôt que d'ordinaire. À un ou deux jours près, les émigrants auraient pu atteindre l'autre versant de la montagne et redescendre vers la Californie. Ils ont parcouru près de 4000 km en 7 mois et se trouvent bloqués par ces chutes de neige anormalement précoces à moins de 300 km du but. Les voyageurs, dépités, rebroussent chemin pour s'installer autour d'un lac en contrebas. De l'autre côté de la montagne, le convoi de 60 chariots emmenés par Lansford Hastings a réussi à atteindre Fort Sutter début septembre. Mais les chariots sont en ruine et les voyageurs très éprouvés. James Reed est également parvenu à gagner Fort Sutter. Il essaie d'organiser une expédition de sauvetage, mais la plupart des hommes valides de la région sont partis vers le sud pour combattre les Mexicains. Et de toute façon, les abondantes chutes de neige empêchent d'atteindre le groupe en perdition. Le piège de l'hiver s'est refermé sur les membres du convoi d'honneur au cœur de la montagne. Pour eux, une longue attente commence. À la mi-novembre 1846, ils sont 81 à être bloqués par la neige dans la Sierra Nevada. 25 hommes, 15 femmes et 41 enfants, dont 6 bébés. La plupart des familles s'installent autour d'un lac dans des cabanes abandonnées ou des abris construits à la hâte. Les familles des frères George et Jacob Donner se sont arrêtées avant d'atteindre le lac et ont édifié des tentes quelques kilomètres plus bas.
Les Donner campaient dans la vallée en aval du lac. La neige est tombée si soudainement qu'ils n'ont pas eu le temps de construire des cabanes. Leur situation était, autant que ce soit possible, pire que la nôtre.
Si on tue un bœuf nous-mêmes, on va trop en gaspiller. Et là, on va même plus maigrir. On mourra de faim.
Ouais. Mais regarde autour de toi.
On est déjà en train de mourir de faim.
Les naufragés de la conquête de l'Ouest comprennent qu'aucun secours ne parviendra à accéder à leur campement avant des mois. Ils doivent se préparer à passer l'hiver coupés du reste du monde.
Tout le bétail fut abattu et la viande enfouie sous la neige pour être conservée. Ma mère n'avait plus de bétail, mais elle s'en procura promettant d'en donner 2 pour 1 en Californie.
Pour faire durer les maigres réserves de nourriture, on mélange la viande avec des morceaux de cuir bouilli ou des écorces. Le 15 décembre, le froid et la malnutrition font leur première victime. Bayliss Williams, un homme qui était déjà en mauvaise santé au départ de Springfield, 8 mois plus tôt. Certains refusent d'attendre la mort sans rien faire et décident de tenter de s'évader de cet enfer blanc tant qu'ils s'en sentent encore la force. Ils sont 15, 5 femmes et 10 hommes à participer à cette expédition de la dernière chance. Les familles Reed et Donner choisissent de ne pas y prendre part. Franklin Graves, le père d'une des familles qui avait rejoint le convoi en route, fabrique des raquettes avec des branchages et des lanières de cuir. Il part avec ses filles Sarah et Marie, âgées de 21 et 17 ans. Mais il doit se résoudre à laisser sur place son épouse, Elizabeth, avec leurs plus jeunes enfants, dont un bébé. Les adieux sont déchirants. Parmi les autres participants de cette expédition, il y a Stanton et les deux Indiens, Lewis et Salvador, qui étaient venus à leur secours depuis la Californie. Profitant d'une éclaircie, le petit groupe se met en route avec dans les sacs le peu de nourriture qu'ils ont pu rassembler. Ils avancent à pas lents. Leurs raquettes de fortune sont extrêmement lourdes, mais elles remplissent leur office et leur permettent de ne pas trop s'enfoncer dans l'épaisse couche de neige. Après 2 jours d'ascension éprouvant, ils atteignent enfin le col. C'est une première victoire, mais la descente jusqu'à Fort Sutter est encore longue et le chemin dans la neige incertain. Le 6e jour, les réserves de nourriture sont épuisées. Charles Stanton n'arrive plus à avancer. Rendu à moitié aveugle par le soleil, à bout de force, il demande à ses compagnons de continuer sans lui et s'assoit dans la neige. Tandis que le reste du groupe s'éloigne, il allume sa pipe, tire une grande bouffée et ferme les yeux. Après 3 jours de marche sans manger, 4 hommes succombent à leur tour. Franklin Graves pousse son dernier soupir dans les bras de ses 2 filles après leur avoir murmuré cette ultime recommandation.
« Mes filles, écoutez-moi. Défendez vos vies. Sauvez les prisonniers du camp. À n'importe quel prix. N'ayez aucune crainte de péché. Pensez à vos frères, à vos sœurs, à votre pauvre mère. Mangez-moi. »
Les yeux embués de larmes, les filles se regardent, terrassées par la tristesse, envahies par le profond sentiment de dégoût que leur inspirent les derniers mots de leur père. Alors que la nuit tombe, le blizzard rugit. Les 10 derniers membres du groupe sont exténués et affamés. Pour survivre, ils vont devoir transgresser l'un des plus grands tabous de nos sociétés. Manger de la chair humaine. Un homme sort un couteau et s'approche de l'un des cadavres pour en découper la chair des bras et des jambes. Dans un lourd silence, empreint de honte et de culpabilité, les morceaux sont mis à cuire au-dessus du feu. Puis, surmontant leur dégoût, les yeux baissés, les derniers rescapés se forcent à avaler. Seuls les 2 Indiens refusent de manger cette viande sacrilège. Les morceaux prélevés sur les autres cadavres sont emballés pour la suite du voyage et étiquetés de façon à ce que personne n'ait à manger l'un de ses proches. Le groupe se remet en route. Au bout de 3 jours, les réserves de viande sont épuisées. L'un des hommes, William Foster, projette de tuer les 2 Indiens pour les manger. Bien qu'affamés, les autres sont indignés par son idée et alertent les Indiens. Effrayés, les 2 hommes s'enfuient dans la forêt. Quelques jours plus tard, le groupe les aperçoit, agonisant, allongés dans la neige. Sans aucune pitié, William Foster leur tire 1 balle dans la tête. Son geste inhumain n'empêche pas les autres de se nourrir de leurs cadavres. Le 17 janvier, après 18 jours d'errance, ce qui reste du groupe atteint enfin une petite maison habitée. Seuls 2 hommes et 5 femmes ont survécu, dont Sarah et Mary Graves, qui avaient vu leur père mourir dans leurs bras. L'effroyable récit des rescapés donne l'alerte. Dès le début du mois de février, un groupe d'hommes s'élance vers les sommets enneigés de la Sierra Nevada pour porter secours aux familles encore dans la montagne. Le 19 février, le groupe de sauveteurs, transi de froid, atteint les rives du lac autour duquel s'étaient installés les voyageurs en perdition.
Au coucher du soleil, nous sommes arrivés à l'endroit où l'on nous avait dit que nous devions trouver les émigrants. Nous avons regardé tout autour, mais aucun être vivant n'était en vue. Puis, nous avons vu une femme sortir d'un trou dans la neige. Alors que nous nous approchions d'elle, plusieurs autres sont apparus, sortant de la neige de la même manière. Elles étaient décharnées par la famine. La première femme a parlé d'une voix étranglée et nous a dit « Êtes-vous des hommes de Californie ou venez-vous du ciel ?»
Durant les 3 mois d'hiver passés dans la montagne, 12 émigrants sont morts, dont Jacob, le frère de George Donner. Tamsen et George, ainsi que leurs enfants, sont toujours en vie. Tout comme Margaret Reed et ses 4 enfants, dont Virginia, marquée à jamais par ce qu'elle vient de vivre.
Les tempêtes duraient souvent 10 jours, et il fallait couper des copeaux des rondins qui constituaient nos cabanes pour allumer un feu. Nous pouvions à peine marcher, et les hommes n'avaient plus la force de se procurer du bois. Nous nous traînions dans la neige d'une cabane à l'autre. Les enfants pleuraient de faim, et les mères pleuraient parce qu'elles avaient si peu à donner à leurs enfants. Ces mois de souffrance auraient rempli de désespoir les cœurs les plus courageux.
On dénombre 52 survivants, mais beaucoup sont trop affaiblis pour suivre les sauveteurs. Plusieurs familles décident d'attendre le prochain groupe de secours. George Donner, diminué par sa blessure à la main, ne peut prendre part au convoi. Son épouse Tamsen refuse de l'abandonner. Le groupe de sauveteurs repart avec 23 rescapés. Margaret Reed et ses enfants sont du voyage. Mais après quelques heures de marche, sa fille de 8 ans, Patty, et Tommy, son fils de 4 ans, s'effondrent. Ils sont trop petits pour suivre. Malgré les protestations de leur mère, l'un des sauveteurs décide de ramener les deux enfants au campement pour qu'ils attendent le prochain convoi.
Comment exprimer ce que nous avons ressenti ? Ma mère voulait repartir avec ses enfants. Le groupe de secours refusa et promit qu'il reviendrait les chercher plus tard. Ce fut une séparation douloureuse. Les hommes se détournèrent, incapables de cacher leurs larmes.
Margaret demande à Patty de prendre soin de son petit frère et prend la route avec ses deux autres enfants.
Le cœur lourd, nous continuâmes notre chemin, marchant dans la neige en file indienne. Les hommes chaussés de raquettes nous ouvraient la voie et nous les suivions.
5 jours plus tard, le groupe aperçoit au loin des silhouettes. C'est la deuxième équipe de secours, menée par James Reed.
Certains de ses compagnons étaient devant, et lorsqu'ils nous virent arriver, ils s'écrièrent « Madame Reed est-elle avec vous ?»« Si oui, dites-lui que Monsieur Reed est là. » Nous entendîmes l'appel. Ma mère s'agenouilla sur la neige, tandis que j'essayais de courir à la rencontre de mon père.
Papa ! Papa !
Dans le vent
Papa
glacé, James Reed étreint sa femme, sa fille et son fils. Apprenant que ses deux autres enfants se trouvent encore au campement dans la montagne, il poursuit sa route pour aller les chercher.
Craignant qu'ils ne périssent avant qu'ils ne les atteignent, il sembla survoler la neige et parcourut en 2 jours la distance que nous avions effectuée en 5.
Quand il arrive au campement, Patty et Tommy sont encore en vie, mais la faim et le froid ont fait de nouvelles victimes. Les sauveteurs sont horrifiés par ce qu'ils découvrent.
Entre les cabanes, gisaient des corps à moitié dévorés. Leur chair avait préservé la vie de leurs camarades survivants qui, tremblant sous leurs haillons crasseux et entourés des restes de leur festin impie, ressemblaient plus à des démons qu'à des êtres humains.
Le deuxième groupe de sauveteurs repart avec 17 rescapés, dont les enfants Reed. Mais ils ne peuvent emmener tout le monde avec eux. Le calvaire des derniers survivants, toujours prisonniers des montagnes, s'éternise. L'hiver n'est pas terminé. Les tempêtes de neige se succèdent. Lorsque le troisième groupe de secours atteint le campement, il n'y a plus que 7 personnes en vie. George Donner, agonisant, supplie sa femme, Tamsen, de partir. Celle-ci refuse obstinément de le quitter. Les secours repartent sans eux, avec 4 personnes. Lorsque le quatrième et dernier convoi de sauveteurs arrive, 1 mois plus tard, il ne reste plus qu'un homme en vie, Lewis Kesberg, entouré de corps dépecés. Les pires accusations pèseront sur lui pour le restant de ses jours, sans que l'on ne sache précisément ce qu'il s'était passé entre les derniers survivants dans le secret de la montagne. Le 29 avril 1847, le dernier escapé atteint Fort Sutter. Sur les 87 émigrants qui avaient choisi de suivre le raccourci de Hastings, 46 sont arrivés vivants en Californie. Les 2/3 sont des femmes et des enfants. Virginia Reed et tous les membres de sa famille ont survécu, hormis sa grand-mère décédée au début du voyage. Les familles Donner comptent le plus de victimes. Les 4 adultes et 4 enfants ont perdu la vie. Aux États-Unis d'Amérique, l'histoire tragique de ce groupe de pionniers est devenue l'un des drames les plus célèbres de la conquête de l'Ouest. Il est connu sous le nom de Donner Party, l'expédition Donner. La déroute de ce convoi n'a pas enrayé la grande migration vers l'Ouest et la colonisation des territoires de la côte Pacifique. 2 années après cette tragédie, en 1850, la Californie est entrée dans l'Union en tant que 31e État. Aujourd'hui, le lac autour duquel les émigrants ont été retenus prisonniers par l'hiver porte le nom de lac Donner. Thank you. Extremis, histoire de survie, est un podcast original de France Inter.